La santé, c'est l'affaire de tous.
Il est l'heure de parler santé sur Phare FM Montauban. Nous sommes toujours en mode international. Notre cher docteur Edmundo Pereira est au Brésil. Alors, je ne connais qu'un mot en portugais et je vais essayer de bien le prononcer. Bom dia, Edmundo. Comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien. Bom dia. Le décalage horaire de 5 heures, c'est encore très tôt ici, mais bonjour toujours pour toi. Et on a un sujet très intéressant à discuter aujourd'hui.
Alors, l'invité du jour pour parler artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ça tient en 4 lettres AOMI, et le docteur Julien Gallet. Bonjour docteur.
Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Enchanté de participer à cette émission. Moi je me présente du coup, le docteur Julien Gallet, chirurgien vasculaire à la clinique du Pont de Chaume, formé à Toulouse, au CHU, par le professeur Chauffour, et toulousain dès le début du cursus, donc... Voilà, un bonhomme du coin.
Parfait. D'abord, dans ces cas, on va attaquer les questions. La première, est-ce que tu peux parler des vaisseaux les plus importants du corps?
Alors effectivement, parmi les vaisseaux les plus importants de l'organisme humain, on compte essentiellement l'aorte qui déploie l'ensemble du réseau artériel, les veines caves, une veine cave supérieure et une veine cave inférieure en ce qui concerne le réseau veineux, et enfin le réseau pulmonaire constitué d'une artère pulmonaire et de 4 veines pulmonaires. Notre sujet aujourd'hui est artériel, donc on va détailler un peu plus l'aorte. C'est la principale artère de l'organisme qui naît du cœur. À la sortie du ventricule gauche, elle se divise ensuite tout le long de son trajet pour donner naissance à l'ensemble des artères de nos organes.
Et est-ce que pour nos auditrices, nos auditeurs, tu peux nous expliquer la différence entre une artère et une veine?
Alors, la différence, les différences sont nombreuses, mais on va citer la principale, qui est liée directement à leurs fonctions respectives. L'artère naît du cœur et va ensuite diriger le sang riche en oxygène qui vient des veines pulmonaires vers nos différents organes. L'oxygène que nous respirons étant le principal carburant des cellules de nos différents organes. Alors, la veine, quant à elle, elle va ramener un sang pauvre en oxygène après utilisation de l'oxygène par les tissus et qui s'est donc enrichi en dioxygène des organes vers les cavités droites du cœur pour rejoindre la circulation pulmonaire où il sera à nouveau réoxygéné. Les artères à destinée des membres inférieurs qui nous concernent aujourd'hui viennent de l'aorte dans sa portion abdominale, c'est-à-dire dans le ventre, et elles ont pour rôle d'amener aux muscles et aux tissus de nos membres inférieurs l'oxygène nécessaire en particulier à l'activité de marche et à la course.
Quelle est la définition d'une artériopathie oblitérante de membres inférieurs, AOMI?
L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, qu'on appelle aussi avec un raccourci artérite, c'est une maladie chronique qui est fréquente puisqu'elle touche environ 20% des patients âgés de plus de 65 ans et elle se caractérise par le rétrécissement ou l'occlusion d'une ou plusieurs des artères à destinée des membres inférieurs qui provoque du coup un défaut d'apport en oxygène aux différents tissus, muscles, nerfs, peau et qui crée le phénomène que l'on appelle l'ischémie.
Peux-tu parler des artériopathies athéromateuses et des artériopathies inflammatoire?
Alors là, on rentre dans la cause des différents types d'artérite. On a la principale cause de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs qui est l'athérome, dans 90 à 95% des cas, et c'est ce qu'on appelle les artériopathies d'origine athéromateuse. L'athérome correspond en fait à l'accumulation de plaques de cholestérol dans l'épaisseur de la paroi de l'artère elle-même, entraînant progressivement une obstruction à l'écoulement du flux sanguin et petit à petit les symptômes que nous détaillerons plus tard. Les causes non athéromateuses d'artériopathie au niveau des membres inférieurs, qui représentent 5 à 10% des cas, sont évoquées quand les patients présentent des symptômes d'artériopathie en dehors de tout contexte de facteurs de risque cardiovasculaire. Et après, les causes dans cette catégorie-là sont nombreuses, elles sont peu fréquentes, mais il y a de nombreuses causes différentes. Et on peut citer les vascularites inflammatoires, pathologies mécaniques qu'on peut éventuellement détailler, le piège poplité, le syndrome de Loge d'effort, les causes directement induites par une anomalie de la paroi de l'artère, les troubles de la microcirculation, en particulier les pathologies du sang, en particulier lymphome et leucémie, et il y a évidemment tout un tas d'autres causes médicamenteuses, soit par toxicité directe, soit par des agrégats plaquettaires, par des phénomènes allergiques, Et bien sûr, on peut aussi citer l'artériopathie radique, qui, elle, est induite par les effets collatéraux des rayons qu'on utilise en cancérologie, en radiothérapie, qui, en détruisant le cancer, peuvent malheureusement aussi irriter, voire détruire la paroi artérielle. C'est aussi des causes d'artériopathie, mais l'immense majorité des patients présentent une artériopathie athéromateuse.
Comment se manifeste l'artéropathie oblitérante des membres inférieurs ?
Alors, on distingue quatre stades de symptômes de l'artériopathie. Le premier stade, c'est l'artère est malade avec un rétrécissement de son flux circulatoire, mais le patient ne ressent aucun symptôme. C'est vraiment le stade asymptomatique. Petit à petit, le rétrécissement va devenir de plus en plus serré et va entraîner un manque d'oxygène en aval de la zone rétrécie. Ça va se manifester par des douleurs lors de la marche qui surviennent au niveau des muscles sous la forme de crampes douloureuses au niveau des mollets, des cuisses, mais parfois aussi des muscles fessiers, obligeant le patient à s'arrêter. La douleur disparaît et ensuite il peut reprendre l'activité de marche avec un périmètre de marche assez stéréotypé qui redéclenche de nouveau la douleur. L'étape d'après, quand le flux sanguin diminue encore dans le territoire musculaire concerné, est à l'origine de phénomènes de douleur même au repos, c'est-à-dire que le muscle n'a plus assez d'oxygène pour son activité, même en l'absence de tout mouvement d'activité de marche. Et ça peut entraîner même des douleurs qu'on appelle de décubitus, c'est-à-dire des douleurs en position allongée dans le lit, puisque le patient, du coup, ne cède plus de la gravité pour faire descendre les globules rouges dans le territoire concerné. La dernière étape, qu'on appelle le stade 4, c'est l'apparition de lésions de la peau sous la forme d'ulcérations cutanées et de plages de nécrose, qui est évidemment la forme la plus sévère. Il faut tout faire pour diagnostiquer le patient et le prendre en charge avant ce stade 4 qui compromet le membre inférieur.
À quoi est dû l'AOMI ?
Dans l'immense majorité des cas, comme on l'a déjà commencé à en parler, la cause de l'artériopathie, c'est l'athérome. Hein. C'est un phénomène qui est induit par les différents facteurs de risque cardiovasculaire. On peut citer la sédentarité, on peut citer l'âge, le tabac, l'alcool, le diabète, l'hypertension artérielle, mais également le surpoids, et aussi les antécédents personnels ou familiaux d'accidents cardiovasculaires. C'est ce qu'on appelle l'hérédité cardiovasculaire, autrement dit les antécédents personnels ou familiaux d'AVC ou d'infarctus du myocarde. La paroi artérielle, sous l'effet de ces facteurs de risque, va s'épaissir, se fibroser, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'athérosclérose, et en vieillissant, ces plaques d'athérome vont petit à petit se calcifier.
C'est quoi une AOMI masquée ?
Alors, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs masquée est une atteinte authentique du réseau artériel destinée aux membres inférieurs, mais dont les symptômes sont masqués par différentes comorbidités, différentes maladies du patient qui vont gêner ou retarder le diagnostic de l'artériopathie. Quelques exemples précis, une personne âgée qui va avoir une claudication artérielle typique, un stade 2 de l'artériopathie, peut parfaitement méconnaître les symptômes en les mettant sous le compte de l'âge ou d'une éventuelle arthrose de la hanche ou du genou. L'essoufflement aussi d'origine cardiaque ou même respiratoire peut limiter l'activité de marche et peut faire méconnaître des symptômes de claudication artérielle. La neuropathie, qu'elle soit d'origine diabétique, éthylique ou carentielle, en engourdissant les sensations des terminaisons nerveuses de la plante des pieds et des jambes, peut tout à fait retarder les premiers symptômes douloureux. On peut également citer un syndrome du canal lombaire étroit ou l'arthrose du rachis, qui peut parfaitement donner des symptômes proches de l'artériopathie, faisant errer le diagnostic ou pouvant grandement le retarder.
Parfait. Et pour nos auditrices, nos auditeurs, quelles sont les complications qu'on doit redouter lors d'une évolution de l'AOMI ?
Alors, lorsque les douleurs à la marche, ce qu'on appelle la claudication intermittente, sont négligées ou masquées par des comorbidités, comme on l'a évoqué précédemment, l'évolution de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs va inexorablement entraîner des douleurs de repos au niveau des mollets, des cuisses, ou des douleurs nocturnes, parfois des douleurs de décubitus en position allongée. On l'a cité, hein, ça empêche la gravité lorsqu'on est allongé d'aider les globules rouges à descendre jusqu'aux pieds et ça peut aggraver les symptômes. En l'absence de prise en charge adaptée, apparaîtront nécessairement par défaut d'apport en oxygène des lésions cutanées sous la forme d'ulcères et des plages de nécrose. Hein, c'est vraiment la mort de la peau et du tissu graisseux sous-cutané en dessous C'est l'évolution ultime qui peut aller jusqu'à la gangrène de tout ou partie d'un pied, exposant directement le patient atteint d'une menace de perte de membre pouvant justifier une intervention d'amputation.
Comment on peut prévenir l'apparition d'une aomie?
Alors, comme on en a discuté, les facteurs de risque cardiovasculaire étant la principale cause de l'athérome et donc de l'artériopathie, la prévention de l'artériopathie va comporter plusieurs volets. Le premier, les règles hygiéno-diététiques, qui vont avoir pour but de lutter contre tous ces facteurs de risque, lutte contre la sédentarité, maintien d'une activité de marche quotidienne et d'une activité physique, limiter les apports d'aliments trop sucrés, trop salés, les aliments riches en graisses saturées, adopter, si on peut dire, un régime crétois, privilégiant l'huile d'olive, une alimentation riche en fruits frais, en légumes frais, privilégiant les viandes blanches, les poissons peu gras, la cuisson à la vapeur plutôt que le beurre ou la friture, et évidemment limiter la consommation d'alcool. Le deuxième volet, c'est le plus important, je dirais, dans nos sociétés occidentales, c'est la lutte contre le tabagisme, qui est un des facteurs de risque les plus puissants au niveau cardiovasculaire. Et le dernier, c'est le traitement médicamenteux qui permet d'obtenir l'équilibre d'un diabète déjà établi, l'équilibre d'une hypertension artérielle et évidemment le traitement de toutes les anomalies du bilan lipidique qu'on appelle les dyslipidémies. Tout ce qui est hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie sera efficacement traité par ce type de traitement.
Effectivement, tu as bien abordé la prévention, mais quel est le traitement d'une aomie?
Le traitement médical de l'artériopathie qui est préventif se concentre en grande partie sur l'amélioration de la qualité de vie du patient, lui permettre de réduire les facteurs de risque et freiner le développement de la maladie. Le patient va donc éradiquer de son quotidien tous les facteurs de risque cardiovasculaires, on en a parlé. Arrêter le tabac, c'est essentiel, équilibrer son diabète, réduire son cholestérol et changer ses habitudes. On va y associer, dans la totalité des cas, sauf allergie particulière, un traitement anti-agrégant plaquettaire sous la forme d'une faible dose d'aspirine première intention afin de limiter le risque de formation de caillots sanguins dans l'artère encrassée. Enfin, l'élément capital que je voulais citer dans la prise en charge initiale, c'est véritablement le dépistage des autres territoires artériels, puisque le réseau artériel est un tout, et lorsqu'on a une atteinte du territoire artériel à destinée des membres inférieurs, on doit, dès le diagnostic, envisager à court terme un dépistage du territoire artériel coronaire, qui est le territoire des artères à destinée du cœur, et des artères à destinée cérébrale. Donc ça, c'est très important. Il y a des examens simples et disponibles qui permettent de dépister cela. Ensuite, l'étape d'après, c'est le traitement chirurgical. On a passé le volet prévention, le volet médical, et maintenant on en est au traitement chirurgical. Alors, c'est difficile de faire un panel très détaillé de chaque technique et de chaque stratégie, mais enfin, on va essayer de faire trois grands groupes. Le premier, c'est le traitement qu'on appelle endovasculaire, par les angioplasties ou dilatation artérielle. C'est des techniques qui permettent de dilater l'artère grâce à un ballonnet et éventuellement complété d'un stent qui permettent de rétablir la bonne circulation sanguine du membre atteint par voie percutanée. C'est, on va dire, la technique entre guillemets de première intention, la moins lourde et la plus simple. Une technique chirurgicale conventionnelle peut être utilisée comme l'endartériectomie, qui est utilisée sur les artères en particulier iliaques et les artères fémorales, et elles permettent de retirer la plaque d'athérome par un abord chirurgical direct avec une ouverture longitudinale de l'artère et une reconstruction pour permettre de remettre en route le circuit. Ensuite, la technique, on va dire, un petit peu plus complexe, c'est la technique du pontage où on va dériver la zone obstruée par un pontage, la plupart du temps en utilisant une veine du patient, ça peut être également une prothèse, et ça court-circuite la zone occluse, la zone bouchée, pour amener du sang en pression, du sang oxygéné dans la zone souffrante, et restaurer une circulation normale. Les différentes techniques ne s'opposent pas, elles peuvent toutes se combiner entre elles. Ça fait des stratégies chirurgicales hybrides associant les techniques chirurgicales conventionnelles et les techniques d'angioplastie percutanée de manière à avoir une stratégie optimisée de prise en charge.
Est-ce que tu pourras dire à nos auditrices, nos auditeurs, quoi de neuf dans le traitement de l'aomie? Quels sont les à niveau recherche, au niveau traitement dans le futur? Qu'est-ce que tu peux nous montrer des choses qui sont faites actuellement?
Alors, en ce qui concerne la chirurgie conventionnelle, toutes les techniques de pontage et d'endartériectomie C'est une stratégie qui est très fiable et qui donne des résultats à moyen et long terme qui peuvent être considérés comme très satisfaisants. On peut quand même, on va dire, avouer que les avancées dans ce domaine ces 10 à 15 dernières années ont finalement pas été très nombreuses. On a par contre le monde de la technique endovasculaire qui a beaucoup, beaucoup progressé ces dernières années. Je vous ai fait un listing des différentes améliorations récentes des stratégies endovasculaires à destinée de l'artériopathie des membres inférieurs. On peut citer la miniaturisation du matériel sur le modèle de la prise en charge des artères du cœur, des artères coronaires. Le matériel a beaucoup réduit en diamètre, donnant accès à des vaisseaux de plus en plus petits et élargissant le panel des possibles. On a le développement également des stents couverts qui permettent, c'est des stents qui sont enduits, sertis d'une prothèse qui permettent de traiter des plaques athéromateuses faites d'un cholestérol mou, qui sont potentiellement à risque d'embole artérielle, ou qui permettent également de traiter des plaques très calcifiées en limitant le risque de rupture de la paroi calcifiée. On développe également de plus en plus les techniques, également sur le modèle de la pathologie cardiologique, de ballons et de stents actifs, qui sont enduits de médicaments. Et ces médicaments permettent de limiter le phénomène de récidive du rétrécissement de l'artère stentée qui a toujours tendance à réagir en s'épaississant. C'est le phénomène qu'on qualifie d'hyperplasie intimale, c'est l'épaississement de la paroi interne de l'artère en réponse au corps étranger qu'est le stent. Les ballons et les stents actifs enduits de médicaments ont pour but de freiner ce phénomène et de limiter la récidive. Il existe également, qui sont maintenant de plus en plus aboutis et utilisés en routine dans notre établissement aujourd'hui, des systèmes d'athérectomie qui permettent, sur le modèle de l'endartériectomie chirurgicale classique, on va ouvrir l'artère et enlever les débris athéromateux pour désobstruer physiquement l'artère. On a maintenant des dispositifs, la plupart sont rotationnels, qui permettent de venir par l'intérieur de l'artère, venir gratter avec une fraise rotative les débris athéromateux calcifiés à l'intérieur d'une artère pour libérer le passage au flux sanguin. Et ça permet du coup d'accéder à des obstructions artérielles par voie percutanée en évitant une chirurgie par abord direct beaucoup plus lourde et en donnant accès à des techniques de désobstruction à des patients nécessairement plus âgés et plus fragiles. Puisque vous le savez, la population vieillit, les patients sont de plus en plus fragiles et de moins en moins compatibles avec des chirurgies lourdes en avançant en âge. Et donc, la science avance et permet, avec des techniques innovantes, de proposer des solutions moins lourdes que la chirurgie conventionnelle, mais néanmoins efficaces. Voilà.
C'est vrai que par rapport à tous les traitements que tu as parlé, l'activité d'un chirurgien vasculaire, c'est sûr que c'est très dynamique. Vous travaillez quand même dans une zone où le risque d'hémorragie est très important. Est-ce que tu pourras dire à nos auditrices, nos auditeurs, combien de temps il faut pour former un chirurgien vasculaire?
Alors, le cursus a un peu évolué pour former un chirurgien vasculaire aujourd'hui par rapport à mon année de formation, mais on peut résumer en somme, il faut finaliser les études médicales dans le tronc commun, c'est-à-dire 7 ans, puis ensuite entamer un internat de chirurgie vasculaire dédié, qui aujourd'hui encore est d'une longueur de 5 ans, mais dont la 4e et la 5e année sont une mise en responsabilité sous la forme d'un cursus qu'ils appellent aujourd'hui le docteur junior. Et passé ces 5 années, il y a un cursus obligatoire de post-internat qui est maintenant descendu de 3 ans à 2 ans, avec une année d'assistanat au CHU et une année qui peut être faite au CHU ou dans un centre hospitalier périphérique avec un service de chirurgie vasculaire. Donc si on résume, on va dire 6 ans minimum plus 5, on est à 11, plus les 2 années post-internat, donc on est entre 13 et 14 ans pour former un chirurgien vasculaire aujourd'hui en France.
Voilà, c'est pour ça, effectivement, c'est une formation longue, mais il faut quand même pour avoir des bons professionnels. Julien, est-ce que il y a eu des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu penses que c'est important?
Alors écoute, le sujet de la pathologie artérielle, la destinée des membres inférieurs est tellement large et tellement passionnant qu'on pourrait en parler des heures, mais le format de l'émission va nous contraindre. Je dirais que ce qui est le plus important à mes yeux, c'est que la principale L'élément principal de prise en charge de la pathologie artérielle des membres inférieurs, c'est sa prévention, c'est véritablement expliquer à nos jeunes que le tabac est un poison, que les dégâts occasionnés ne sont pas ressentis tout de suite, qu'ils auront des conséquences à très long terme sur le réseau artériel de l'ensemble de l'organisme, pas que des artères à destinée des membres inférieurs, mais également du cœur, du cerveau, des artères rénales, des artères à destinée de l'intestin, et qu'on peut pas imaginer fumer sans conséquence dans la vie d'un être humain. L'activité physique est capitale, hein. Les patients qui marchent alors qu'ils ont une artériopathie authentique voient une amélioration de leurs symptômes dans la totalité des cas, et la rééducation à la marche est parfois le traitement principal d'une pathologie artérielle fémorale superficielle isolée sans autre atteinte. Donc l'activité physique est capitale également. Ensuite, évidemment, les traitements, on les connaît, hein, c'est la trithérapie classique à visée cardiovasculaire, hein, l'antihypertenseur, le traitement anti-agrégant plaquettaire et le traitement hypolipémiant. Mais je dirais que une fois qu'on en est là, la maladie est établie et j'aimerais qu'on arrive à intervenir avant. Ça me mettrait au chômage, mais je crois que vu l'élévation de la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire dans la population occidentale, et en particulier européenne, occidentale et française, l'augmentation de l'obésité, l'augmentation du diabète, l'augmentation de la sédentarité avec les temps passés derrière nos écrans qui sont très utiles mais qui nous rendent tous de plus en plus sédentaires, je crois vraiment que la prévention reste le maître mot et il faut que nous tous, médecins, profession paramédicale, on lutte pour que les gens entendent ce message et éloignent de leur quotidien tous ces facteurs de risque pour limiter toutes les maladies cardiovasculaires qui, malheureusement, sont la cause principale de mortalité avec le cancer en France.
Parfait. Un grand merci de ton temps et toutes ces explications, parce que je pense qu'on, comment, pour nos auditrices, nos auditeurs, c'est important de avoir quand même une petite notion des artériopathies oblitérantes du membre inférieur. Les portes de Phare FM sont toujours ouvertes. Tu es toujours bienvenue quand tu souhaites revenir. Merci beaucoup de ton temps et tes explications.
Merci à vous infiniment de cette invitation des plus chaleureuses et conviviales, et à votre disposition pour une nouvelle émission.
Parfait. Laurent, je te passe l'antenne.
Merci Edmundo, merci docteur Gallet pour cette très belle conclusion. L'émission vous a plu, elle est à retrouver sur notre site www.farfm.com, rubrique La Santé, c'est l'affaire de tous, et en podcast.